Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur qui fut connu en son temps, au 19e siècle, mais que je pense vous ne le connaissez sans doute pas. C'était un officier marine, c'était le commandant Auguste Marceau. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a une vie assez extraordinaire. Il est lié à Notre-Dame des Victoires et ce fut un grand serviteur de la Vierge Marie. Alors parmi les nombreux trophées de Notre-Dame des Victoires, il en est un qui proclame la toute-puissance miséricordieuse de la Vierge Marie. Auguste Marceau, capitaine de frégate que ses talents, ses vertus et ses œuvres ont rendu célèbre dans toute la France du XIXe siècle. Il fut aussi une des conquêtes de l'archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie, fondée par l'abbé Desgenettes et dont Notre-Dame des Victoires est le centre. François-Auguste Marceau est né le 1er mars 1806 à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Son père était le sous-préfet de la ville. L'enfant est baptisé 2 mois après sa naissance, mais élevé en dehors de la foi chrétienne. À l'âge de 18 ans, il est admis à l'école polytechnique où il découvre le saint-simonisme. La doctrine de Claude-Henri de Saint-Simon se proposait de transformer la société et d'établir le bonheur de l'homme grâce à l'industrie, le développement économique, étant censé aller de pair avec le progrès moral et intellectuel. Saint-Simon souhaitait remplacer l'idée abstraite de Dieu par la loi universelle de la gravitation et fonder une religion de la science. Avec les Saint-Simoniens, Auguste développe son intérêt pour les questions sociales, mais dans une optique sectaire et anticléricale. Sa brillante intelligence, associée à un caractère fort, le remplit d'orgueil. Il se livre à des études approfondies sur la machine à vapeur, dont il devient un spécialiste à sa sortie de Polytechnique. Bien que n'ayant pas d'attrait particulier pour la mer, il choisit la marine. En 1826, il embarque sur la corvette la Bayonnaise pour une croisière militaire autour du monde. En 1829, il participe à la campagne de Madagascar et sauve une troupe de marins pris dans une embuscade, ce qui lui vaut de recevoir la croix de la Légion d'honneur à l'âge de 23 ans. En 1832, il part en expédition en Afrique du Nord sur la Robur, puis passe sur le Sphinx, premier navire à vapeur de haute mer dont il améliore le fonctionnement. Il participe également à l'expédition scientifique qui ramène à Paris l'obélisque de Louxor qui, comme vous le savez, est placé place de la Concorde. Cet obélisque a été offert à la France par le vice-roi d'Égypte. Celui-ci sera installé en 1836 à Paris. En 1835, commandant l'aviso à vapeur l'Africain, Auguste participe à la campagne du Sénégal où il est heureux de se voir maître de la technique de son bateau et du maniement des hommes. Mais il est atteint par le paludisme et on le rapatrie à Brest presque mourant. Une cousine l'accueille chez elle au Mans. Elle place à son chevet une médaille de la Sainte Vierge et fait prier pour lui l'archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie, fondée donc par l'abbé Desgenettes. 6 mois plus tard, Auguste est rétabli. Sa cousine lui offre la médaille de Marie qu'il jette avec indifférence parmi ses affaires. Peu après, il se voit confier le vapeur, le Minos, chargé du service des postes. Il améliore le fonctionnement des chaudières et donne la vitesse du bateau. Grâce à ses réflexes, il évite au navire une explosion qu'aurait pu provoquer la négligence d'un matelot. Exigeant et ponctuel pour le service, excellent officier de marine, Marceau est pourtant mal noté en raison d'une certaine arrogance envers ses supérieurs, d'autant plus qu'il est plus compétent que la plupart de ses interlocuteurs au sujet des machines à vapeur. En dehors du service, il s'étourdit dans une vie mondaine et débauchée, blasphémant volontiers. Il garde toutefois une certaine honnêteté et un désir de connaître la vérité. Mais il était tellement endurci dans son incrédulité qu'au milieu d'une tempête où il se vit sur le point de périr, le souvenir de Dieu, la pensée du ciel et de l'enfer, le moindre doute sur ce qui attend l'homme après sa mort, ne vinrent même pas effleurer son âme. Il pensa seulement à sa mère, qu'il aimait avec tendresse. Il blasphémait si souvent le nom du Seigneur que cette habitude paraissait tenir de la rage et était devenue comme un besoin pour lui. Plusieurs de ses amis s'en étonnaient et étaient évidemment choqués. Il lui est arrivé assez souvent de dire qu'il étudiait, qu'il cherchait, qu'il n'admettait rien avant d'être convaincu, mais il ne voulait pas que le catholicisme entrât en ligne de compte avec les systèmes de philosophie qu'il fouillait avidement. Il préférait même le Coran à l'Évangile. L'ambition paraît avoir été un des entraînements les plus violents de son âme. Il ne regardait aucun emploi dans la marine comme au-dessus de son mérite et de sa capacité. Cette persuasion lui donnait une exaltation d'orgueil et lui inspirait un mépris pour les autres. « Je ne sais pas, disait-il plus tard, ce que je n'aurais pas fait pour mériter le regard d'un chef. » Jamais il ne consentit à rien solliciter. Il refusa même de voir le roi Louis-Philippe. « Il faudra bien que mon nom sorte un jour, disait-il. » À bord, il était dur et intraitable avec son équipage. Un marin l'appelait la terreur des matelots. À la moindre occasion, on voyait éclater son caractère emporté. Tel fut pendant de longues années le commandant Marceau sous le rapport religieux. Un témoin, le capitaine du frégate Duc Ouédic, était ami de Marceau et il le recommandait sans cesse à l'archiconfrérie. Mais enfin, lui dit l'abbé Desgenettes, qu'est-ce donc que votre ami Marceau ? C'est Satan en personne sur la terre. Convertissez-le et vous verrez bien le bien qui en résultera. Peu de temps après, Duc Ouédic, étant revenu à Toulon, rencontra Marceau. Il lui dit d'un air soucieux, « Ça ne va pas aussi bien que de coutume. Des idées fatigantes me traversent la tête. Je me prends à me demander ce que nous sommes venus faire sur la terre. » « Bien !» s'écria Duc Ouédic. « Je vois que le bon père Desgenettes n'a pas oublié mes recommandations à l'archiconfrérie. » Je vous laisse deviner la figure de Marceau en voyant la joie de son ami et en l'entendant prononcer les mots du père Desgenettes et l'archiconfrérie, qui bien évidemment pour lui était de l'hébreu. En 1838, il rejoint l'escadre de la Méditerranée à Toulon. On lui confie le vapeur Le Vautour, chargé de surveiller les côtes de l'Algérie. Il apporte quelques améliorations techniques à son vaisseau, malgré les réticences et les critiques de ses collègues. À partir de 1840, plusieurs conversions de marins éveillent en lui un certain intérêt pour la religion catholique, si dans un premier temps, il se montre plutôt railleur et sarcastique. Il a aussi remarqué un officier qui visite souvent les malades. Très curieusement, il voit les matelots témoigner à ce dernier un respect particulier. Il sait que c'est un catholique fervent. Il consent à lire des livres religieux. Le Christ devant le siècle, et la démonstration évangélique, entre autres. Les preuves de la résurrection de Jésus à ce moment de sa vie, l'écrasèrent. Alors, il dit à l'un des officiers dont les exemples et les paroles l'avaient ému, « J'ai lu, j'ai réfléchi, et je crois, je suis converti. » Son ami lui répondit, « Mais il ne suffit pas de croire, il faut pratiquer, prier, se vaincre soi-même. » Mais, bien sûr, Marceau ne connaît aucune prière, pas même le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Il emprunte discrètement le livre de prière à sa domestique. Il se met aussi à faire souvent le signe de la croix. En juillet 1841, il se confesse auprès de l'abbé Morin, aumônier de la Marine à Toulon. Au moment de recevoir l'Eucharistie, une vive tentation l'assaille contre la réalité de l'hostie sacrée. Après la communion, il se plaint à la Sainte Vierge de ne pas éprouver davantage de dévotion. Alors, à ce moment-là, son cœur se dilate et des larmes inondent son visage. Il a 35 ans. À l'un de ses amis qui l'interroge sur sa conversion, il répond « J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai lu, j'ai prié et Dieu a fait le reste. » Il écrivait à sa mère « Le premier jour où j'essayais de prier, il me vint subitement à l'esprit et la médaille de la Sainte Vierge. Ce souvenir était pour moi tout un événement. Il est lié à la grande maladie que je fis en 1835. Lorsque je revins mourant du Sénégal, on m'en transporta de Brest au Mans, chez notre parente. Elle fit mettre dans mon lit une médaille bénite. Lorsque je fus béni et qu'après un congé de 6 mois, je revins lui faire mes adieux, avant de partir pour l'Orient, elle me remit une médaille de la Sainte Vierge en me priant de la conserver. Je la pris et je la mis au milieu de mes hardes. Elle y est toujours restée et m'a suivie partout. J'allai tout de suite au tiroir de mon secrétaire dans lequel elle était ensevelie. Je la mis au cordon de ma montre et je la portai sur moi. Puis, quel n'a pas été mon étonnement lorsque, lisant un certain livre intitulé « Manuel de l'archiconfrérie du Saint-Cœur, du Saint et Immaculé Cœur de Marie », j'ai vu que cette association a été fondée à Notre-Dame des Victoires à Paris, à la même époque où je tombais malade en 1836, que les prières des associés ont obtenu des miracles de conversion et de guérison, et qu'enfin, tous ceux qui en sont membres doivent porter la médaille dite miraculeuse. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute. J'ai été protégée par la Sainte Vierge et c'est à elle que je dois le changement qui s'est opéré en moi. Et cette protection, je l'ai due encore aux prières des membres de l'archiconfrérie dont je faisais partie grâce à notre parente. Aussi n'ai-je pas hésité à écrire tout de suite à Paris pour me faire inscrire parmi les membres de l'association. Effectivement, je l'ai retrouvé sur le registre. Le commandant Marceau s'est inscrit à l'archiconfrérie le 21 octobre 1842. Et dès ce moment-là, il fréquente Notre-Dame des Victoires lorsqu'il est à Paris. Sa confiance en Marie devient si grande que désormais toutes ses pérégrinations maritimes seront placées sous la protection de Notre-Dame. Au début de 1842, Marceau rencontre à Nantes le vénérable monsieur Léon Papin Dupont, surnommé le Saint-Homme de Tours. Monsieur Léon Papin Dupont fut l'apôtre de la dévotion à la Sainte Face de Jésus et de l'adoration eucharistique. La famille Martin était affiliée à l'archiconfrérie de la Sainte Face. Il y a un oratoire à Tours près de la cathédrale. Homme plein de zèle, donc, ce monsieur pour les œuvres de charité. C'est le début d'une amitié spirituelle qui s'exprimera à travers une correspondance fournie. Le sujet principal de leurs lettres est Dieu, mais aussi leurs œuvres mariales et sociales, ainsi que leur attachement à l'adoration eucharistique pour la conversion des pécheurs. Sous son influence, Auguste se transforme et il manifeste une grande humilité. Il cherche des personnes susceptibles d'avoir avec lui des entretiens spirituels. Le style de ses lettres, sèche et conventionnelle avant sa conversion, se transforme. Elle respire maintenant l'affection et la tendresse. Parmi les premières personnes à qui l'officier s'applique à faire du bien, se trouve sa propre mère, qui, sous son influence, se convertira. On reproche pourtant à Auguste d'afficher trop publiquement sa foi, par exemple en participant en uniforme, cierge à la main, à la procession de la fête Dieu. Il répond : « J'ai été publiquement incrédule et apôtre, hélas, trop éloquent du mensonge. Rien de plus juste que de réparer ce scandale donné à la société. » La médaille miraculeuse, son origine, sa surprenante efficacité pour les mourants de l'âme et du corps, et pour Marceau, un trésor. Jusqu'à sa dernière heure, également, Auguste Marceau conservera pour Notre-Dame des Victoires une inviolable et filiale attachement.